Donc bonsoir à vous toutes et tous. Merci d'être venus nombreux, mais on comprend pourquoi. Parce que vous êtes venus à la rencontre de Stéphane Rostin, archéologue, américaniste, explorateur, défricheur. Oui, oh oui. Empêcheur de penser en rond aussi, qui, Charlotte l'a dit, a dédié pratiquement 40 ans de votre vie, cher Stéphane, à l'Amazonie, avec une approche qui, au début, comment dire, vous avez osé faire ce que les autres, la plupart des archéologues en Amérique du Sud, peut-être obnubilés par des grandes civilisations, les pyramides mayas et autres temples incas, ne voulaient pas faire, ne pensaient pas faire. C'est peut-être un peu d'ailleurs ces grandes civilisations, l'arbre qui cache la forêt amazonienne. Vous, Stephen Rostin, vous avez recherché, creusé en Guyane d'abord, puis dans toute l'Amazonie, des traces d'autres sociétés précolombiennes, aujourd'hui disparues, totalement oubliées. Vous avez révolutionné nos connaissances, on peut le dire. On reviendra aussi sur... Vous avez même fait la couverture de Science il y a exactement un an, autour de cités perdues amazoniennes. Mais pour comprendre jusqu'à quel point vous avez révolutionné l'archéologie de l'Amazonie, puisque c'est de ce livre dont on va parler ensemble ce soir, on va peut-être commencer par une question qu'on vous pose, je crois, Stephen, à chaque conférence. Cette question, c'est celle-là. Qu'est-ce que vous trouvez en Amazonie, puisqu'il n'y a rien, il n'y a rien en dessous?
J'adore ce type de question. Bonsoir. J'adore ce type de question où la réponse est dans la question. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé en Amazonie, j'avais travaillé chez les Mayas avant. Et donc, à Paris 1, on avait, quand on faisait l'archéologie des Amériques, on avait un choix entre les Mayas et je ne sais plus quel les Mayas. Et sorti de là, on était un traître. Et quand j'ai dit que j'allais en Amazonie, mon prof me dit laisse tomber, il n'y a rien, tu n'auras jamais de boulot. Et ça fait 40 ans que j'entends ce type de phrase. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'archéologie de l'Amazonie, c'était peu de gens. On était sur une pente descendante avec une Américaine qui avait un peu dominé la recherche archéologique, dynamisé et dominé la recherche archéologique, mais qui pensait que ce qu'on appelle du déterminisme environnemental, c'est que le milieu... décide de la qualité de la culture. C'est-à-dire que la géographie définit la culture, détermine la culture. C'est-à-dire que quand on est dans des pays tempérés, on est forcément des grandes civilisations. Et dès qu'on est dans des déserts ou des lieux plus difficiles, eh ben, on reste au stade tribal, voire clanique. Et ça marchait très bien. Tous les archéologues qu'elle avait formés étaient un peu dans ce sillon. Il y a eu quelques voix discordantes de quelques archéologues qui étaient nés dans les années 70. Et à partir des années 80, il y a eu la contribution, un regard haut, notamment avec des gens comme Descola, William Ballet, Darrell Posey, des anthropologues qui disaient « mais les autochtones, ils ont une action sur la forêt ». Et donc je débarque un peu dans ce... On n'était vraiment pas nombreux comme archéologues en Amazonie. Et je débarque à ce moment-là à Cayenne, et j'essaie de regarder différemment les choses. Un peu plus tard, j'ai un collègue brésilien, Eduardo Neves, qui a fait la même chose sur le Rio Negro, Michael Eckenberger, qui a fouillé dans le Haut-Xingu et qui a trouvé aussi des choses avec un autre regard, toujours. Alors, ce n'était pas facile, parce que quand j'ai dit j'ai commencé par vouloir faire de l'archéologie aérienne. Et on m'a dit non, laisse tomber, il n'y a rien à voir. Puis moi, je suis breton, donc j'écoute toujours les conseils. Mais comme je suis breton, j'en tiens jamais compte. Et donc, j'ai fait mes survols en ULM et j'ai découvert des milliers de structures que j'ai comparées avec d'autres choses et qui étaient visiblement des champs surélevés, des buttes dans les marécages, notamment sur le centre spatial.
C'était en Guyane,
ça. C'était en Guyane, c'était sur le littoral de Guyane. Et des milliers et des milliers. Et au départ, les gens n'ont pas voulu croire. On me disait, ah ben, c'est naturel ou c'est les bagnards qui font ça. Ben, j'ai dit, montrez-moi pourquoi. Et donc, je travaillais plus pour montrer que non. Et j'ai mis quand même 15 ans pour le démontrer à preuve à l'appui, avec des datations, des études. Et donc l'Amazonie, c'était encore quelque chose de folklorique. D'ailleurs, parfois, on était invité dans un congrès pour mettre un peu de plume sur la dernière communication, quelque chose d'un peu exotique. C'était terrible, le folklore qui entourait cette archéologie. Et à la fin des années 90, il y a de plus en plus de gens, il y a eu une explosion au Brésil notamment, de chercheurs. D'abord, on a commencé à payer les universitaires, ce qui était assez nouveau, enfin au Brésil. Et donc, il y a eu des gens qui se sont formés, qui ont eu des thèses, et vraiment, ça a été fulgurant. Depuis le début des années 2000, l'archéologie amazonienne connaît un nouveau visage, et puis surtout ne se tient plus forcément aux petits tessons de céramique ou aux petits cailloux, et essaie de voir autre chose, et notamment le paysage. Et dans le paysage, il y a des traces, des populations d'avant, qui ne sont pas faciles à voir toujours. Ça peut être dans le type de végétation, ça peut être très discret.
D'où l'intérêt de ces technologies aériennes, du LIDAR notamment, qui vous ont permis, Stéphane Rostin, de nombreuses découvertes, que ce soit en Guyane ou plus récemment.
Pas seulement à moi. Alors, c'est toujours des travaux collectifs. En Amazonie, on travaille beaucoup collectivement. L'archéologie, l'archéologue tout seul qui part avec sa truelle, alors j'ai commencé comme ça, certes, mais c'est un peu fini. Maintenant, tous les projets archéologiques en Amazonie sont des projets collaboratifs, interdisciplinaires, avec des archéobotanistes, des spécialistes des sciences du sol. On réunit toujours, on marie des disciplines différentes pour faire parler le paysage, parce qu'il faut reconnaître que souvent les sites de prime abord ne sont pas très impressionnants. Hein, ça peut être des buttes de terre, ça peut être des tessons de céramique, mais c'est pas, on n'a pas de pyramide. Hein. Heureusement, peut-être, c'est peut-être pour ça que ça a été préservé.
Et c'est aussi, alors, interdisciplinaire, oui, dans toutes les disciplines archéologiques, mais pas seulement. Vous mettez aussi en avant les femmes archéologues en Amazonie, et puis vous recueillez les témoignages de tous ces peuples.
Plus que les témoignages, on travaille avec
eux. Vous travaillez avec eux.
Oui, oui. Alors, les femmes, j'y suis pour rien. C'est qu'il y a une spécificité de l'archéologie amazonienne qui est qu'il y a deux fois plus de femmes que d'hommes. Et les raisons sont un peu obscures et c'est pas forcément admirable, parce qu'au départ, c'est peut-être de les avoir cantonnés dans des trucs où les hommes ne voulaient pas rester. Mais en tout cas, c'est une réalité. Depuis 70 ans, il y a plus de femmes que d'hommes, sauf qu'en effet, elles ne sont pas forcément reconnues. Les hommes sont quand même cités deux fois plus que les femmes, alors qu'ils sont deux fois plus nombreux.
Vous travaillez aussi avec, principalement avec ces populations
Alors ça, dès le départ, j'ai travaillé avec les autochtones, parce que quand je suis arrivé en Guyane, je travaillais pour l'Orstom, enfin l'IRD aujourd'hui, et il n'y avait rien en archéologie. Donc pas de publication, il n'y avait pas d'ethnologue, donc je n'avais même pas de livre d'ethnologie, j'étais un peu seul. Et donc j'ai travaillé avec d'autres disciplines, ce qui m'a tout de suite formé à travailler en groupe avec d'autres disciplines. Mais ça, maintenant, tous les archéologues d'Amazonie le font. Hein. Il a fallu que je m'adapte à ce terrain, à apprendre le terrain. Et le meilleur moyen, c'était aussi d'être proche des autochtones, de travailler avec eux sur les fouilles. Alors parfois, ils ne voulaient pas faire de fouilles, mais même pas seulement pour aller voir les structures de champs surélevés, par exemple, avec eux, voir ce qu'ils en pensaient. Et c'est récemment que cette espèce de concomitance avec les autochtones s'est révélée dans un livre que j'ai co-signé avec un anthropologue et un palicourt, spécialiste de l'histoire orale de son peuple. Et c'est de penser que l'histoire écrite qu'on a, notamment dans le cas de la Guyane en l'occurrence, c'est quelques chroniqueurs qui passaient leur soirée à Cayenne, dans les pince-fesses, à boire du rhum, et qui ne voyaient pas grand-chose de la vie, finalement. J'espère qu'il n'y a pas d'historien, parce que sinon je me fais encore allumer. Ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas forcément vu tout ce qu'ils ont décrit. Et puis, il y a une époque, au XVIIe, XVIIIe, copier ce qu'avait dit le prédécesseur, ce n'était pas un problème. Et on n'a jamais écouté les autochtones. Et l'histoire de la Guyane a été construite sur le discours de quelques chroniqueurs, très, très peu nombreux, une dizaine, pas plus, sans jamais écouter ce que disaient les autochtones. Et eux, ils ont une tradition orale. Alors, on l'a regardé avec un peu d'arrogance, un peu de dédain. Mais prenez un livre, vous le lisez une fois, et c'est fini, vous ne le relisez pas, apparemment que ce soit un chef-d'œuvre. Et donc, vous l'oubliez au bout d'un moment. Alors que la tradition orale, qui est répétée toutes les semaines, où on raconte les faits et gestes des héros, des ancêtres, ça s'inscrit vraiment dans une mémoire collective, et ça peut se maintenir des siècles. Et donc, on a pris le parti d'écouter ce que disaient les autochtones, de les faire écrire avec nous, enfin, un en tout cas, et de prendre aussi autant au sérieux la tradition orale que la tradition écrite. Et finalement, ça a permis de rectifier des choses qui étaient dites, qui étaient fausses dans l'histoire, et des choses qui ont été confirmées par différentes analyses à côté, comme l'archéologie, les carottes paléoclimatiques, certains événements qu'ils ont racontés correspondent bien à des changements climatiques. Et cette dynamique, elle est. Donc, on a pu la mettre en route en Guyane, mais elle est surtout extrêmement en forme, j'ai envie de dire. Au Brésil, qui est vraiment un pays à l'avant pour ça, et c'est l'année du Brésil, donc c'est bien de le rappeler. Il y a beaucoup d'Autochtones maintenant qui font des études universitaires, autochtones, noirs-marrons, descendants de noirs-marrons, mais aussi des caboclos, les populations, pas seulement les Amérindiens, mais les populations d'Amazonie, qui veulent connaître leur passé, parce que le passé a toujours été écrit par des gens qui vivent au sud, à Rio de Janeiro ou à São Paulo. Et ils veulent écrire leur passé. Et donc, maintenant, il y a des docteurs autochtones. Alors, ils ont une vision très différente de nous. Les données de base ne sont pas les mêmes que nous. Et ce dynamisme, il est surtout... Alors, je citerai Santarém, l'université où ils font énormément ça, dans le Bas-Amazon. Mais ça se fait aussi dans d'autres universités. Et donc, le regard change radicalement. Les autochtones ont compris qu'il fallait qu'ils participent à l'écriture de l'histoire de leur pays. Et c'est très riche. Et maintenant, les projets associent de plus en plus différentes compétences, pas seulement scientifiques, mais aussi de scientifiques d'autres horizons et aussi des habitants locaux. Je crois qu'on est en train de réécrire, comme je disais dans mon livre, recomposer l'histoire de l'Amazonie. Et c'est un bienfait. Maintenant, on peut redire des choses.
La recomposition, la réécriture, enfin l'écriture ouais. Même, j'ai envie de dire, de cette histoire de l'Amazonie, parce qu'au fond, c'est comme si l'Amazonie n'avait pas d'histoire. Je sais que vous vouliez montrer, je pense que c'est très. Que ça se voit sur ce PowerPoint que vous montrez.
Ah oui, j'avais quelques images pour vous donner une idée. Parce que c'est vrai que vous devez connaître parfaitement les pyramides mayas et les temples incas, mais moins l'Amazonie, puisqu'hélas, ou plutôt avec plaisir, maintenant, nous sommes deux archéologues institutionnels en France à travailler sur l'Amazonie. J'ai une collègue, Gabriela, qui vient d'arriver du Brésil et qui donc travaille au muséum. Et nous sommes deux. J'espère, avant ma retraite, qu'on sera encore plus. Je voulais juste rappeler que l'Amazonie, les premières traces de peuplement sûres remontent à 13 000 ans. On a des dates. Alors c'est pas facile de dater les premières. On a eu un peu de chance avec des sites comme celui-là qui est en Amazonie colombienne, où dans les niveaux d'occupation ont été trouvées des petites boules de colorants qui ont permis de faire ces peintures. Donc on peut dater le niveau et donc dater les peintures les plus anciennes. Il y en a qui sont plus récentes, mais les plus anciennes remontent à 13 000 ans. Et qu'en Amazonie, qui a toujours été un peu la cinquième roue du carrosse, vous voyez les cartes, encore une carte qui est sortie cette année de la domestication, des centres de domestication dans le monde. Vous avez évidemment le bassin méditerranéen, l'Asie, le Mexique. Et puis, il y a un grand blanc qui est l'Amazonie. On n'a pas de domestique en Amazonie, officiellement. Alors que les chercheurs, les archéobotanistes ont prouvé qu'on est à plus de 140 plantes domestiquées en Amazonie. 40% des plantes consommées aux Amériques aujourd'hui ont été domestiquées en Amazonie. Donc ça a été un énorme centre de domestication des plantes. Les animaux ont été très peu domestiqués dans les Amériques. Il y a 4 espèces, il y a le lama, le canard musqué, le cochon d'Inde et le dindon. On n'a pas domestiqué plus, qu'on sache en tout cas. Mais les plantes, si, je vous dis, il y en a plus de 140, et des plantes qu'on mange régulièrement. Et l'ananas, la patate douce, le manioc, il y a toute une des plantes qu'on ne connaît pas bien ici, mais qui ont été domestiquées en Amazonie. Et puis, des traces dans ce lieu qui est considéré comme un lieu sauvage, un peu perdu, un peu retiré, un peu séparé du reste, en réalité, il y a eu beaucoup d'innovations, des innovations que vous utilisez presque toujours, le hamac, le boucan.
Le hamac a été inventé par les peuples d'Amazonie.
Oui, oui, oui. Et qui a été adopté très vite par les colons pour le bateau, parce que c'est, faut voir les conditions sanitaires dans un bateau il y a 500 ans, c'était pas terrible. Mais surtout, par exemple, la poterie, la céramique. On a toujours dit que ça venait de la côte d'Équateur, ici, ou de la côte de Colombie, qui avait 5000 ans. En réalité, la plus ancienne céramique connue des Amériques, des deux continents, nord et sud, provient de basse Amazonie, il y a 7000 ans. Les Amazoniens utilisaient déjà de la céramique. Donc, je vous ai dit, voilà, il y a des différents états de domestication des plantes, mais on est dans le plus grand centre mondial de domestication de plantes à plusieurs niveaux, parce qu'il y a aussi toute une utilisation des plantes sauvages qui n'ont pas été domestiquées, mais qui ont été manipulées sans être vraiment domestiquées. On compte en Amazonie 16 000 espèces d'arbres, dont 8 000 sont connues en détail, et 40 000 espèces de plantes. On est dans une méga diversité, pareil pour les animaux et pareil pour les microbes, évidemment. On est sous les tropiques, donc tout ça pullule bien, mais ce sont des grands centres de créativité. Et puis, on a souvent dit que les autochtones se contentaient de brûler un bout de forêt pour cultiver. Ça, c'est la vision qu'on avait avant les années 80. En réalité, ils ont développé des techniques extrêmement fines et adaptées de mise en valeur et de culture des plantes dans la forêt. Donc, le brûlis, en effet, mais aussi les champs surélevés dont je vous parlais. La terra preta, qui est une terre issue d'une pollution humaine qui a été longue et stable dans un lieu, ça a transformé le passage des humains, le fait de rejeter toutes sortes de détritus, a transformé la terre pour la rendre et l'a rendue fertile. Un effet Frankenstein là-dedans, où on transforme complètement un milieu naturel. Et puis d'autres techniques, comme celle de la plaine alluviale, avec les crues de l'Amazone qui déposent des limons arrachés aux pentes des Andes et qui se déposent le long de l'Amazone et sont cultivées pendant 3 mois de sécheresse, de basses eaux plutôt. Alors, faut récolter vite parce que l'eau peut monter très vite en simplement une nuit et tout faire perdre. Donc, des tas de techniques agricoles qui ont été développées et qu'on commence tout juste à saisir.
L'Amazonie n'est pas une forêt vierge. Enfin, on n'a de vierge que le nom.
Voilà. Ou l'esprit des gens qui la visitent. Quand je parlais de domestication et de présence humaine et de manipulation de la forêt, ici, vous avez une collègue qui a fait ce schéma qui est très clair. Il y a des sites archéologiques. Et si vous regardez le nombre d'espèces d'arbres comestibles dans la forêt, ça peut être 0 ou ça peut être 20%. Une vingtaine d'espèces, 20%, pardon. Et dès qu'on est sur un site archéologique, ça monte jusqu'à même 60%. C'est-à-dire que dans les sites qui ont été occupés par les humains, il y a une recomposition florale avec des espèces utiles. Ils ont planté. D'ailleurs, vous voyez que dans les villages, les gens recrachent les noyaux, les pépins pour que ça pousse. Et les premiers disséminateurs sont les enfants, d'ailleurs, qui passent leur temps à manger des fruits et rejettent les pépins. Et c'est eux qui participent à l'extension de la biodiversité.
Mais Stéphane Rostin, comment se fait-il que, avant vous et cette école-là et d'autres, évidemment archéologues, comment se fait-il qu'on n'ait pas pensé à ça, qu'on ne voyait l'Amazonie que comme une forêt vierge, qu'on n'imaginait pas que les humains avaient là aussi ouais. Changer la donne.
Alors, c'est pas que moi, là, par exemple, c'est des travaux qui ont été menés par des archéobotanistes, parce qu'avant, c'était à tel point que l'archéologie jusqu'aux années 80, on a trouvé 4 tessons, qu'est-ce qu'on va en dire ? Ben, pas grand-chose. Donc, on va regarder comment vivent les gens aujourd'hui, les autochtones, et on disait, ben voilà comment ils vivaient il y a 1000 ans. ça se limitait à ça, c'était extrêmement basique.
Et surtout, est-ce que c'est aussi en lien avec nos préoccupations environnementales aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'on réalise que les humains ont une action, qu'elle soit bénéfique ou pas sur la
Terre ? Oui, mais c'est venu avant ça. Je pense que c'est venu des chercheurs, et d'abord des anthropologues qui ont observé que les autochtones avaient une action sur leur environnement, une action pérenne, et qui ont alerté là-dessus. Et certains, à l'époque, dans les années 80, il y a des archéologues qui sont restés bloqués sur les idées de cette américaine, à dire c'est comme ça, dans une forêt aussi pourrie, on ne peut rien espérer, on ne peut rien faire. Et donc, même la culture pourrie. Et d'autres qui, au contraire, je ne suis pas tout seul, d'autres qui ont choisi de s'interroger sur la validité de l'archive archéologique et surtout de son interprétation. Et on a reconsidéré complètement beaucoup de paradigmes qui étaient faux. Et donc voilà, ici vous voyez que la forêt, elle est quand même impactée par les sites archéologiques et que ça dure. Voilà la Terra Preta. Terra Preta, donc, c'est le résultat de rejets de charbon, de tessons, de production humaine, et de nourriture, et qui finit par polluer, fertiliser le sol. Et ces sols sont aujourd'hui beaucoup plus fertiles que les sols alentours. Et même les habitants de l'Amazone, parfois, le vendent, ceux qui ont une propriété avec de la terra preta, la terre noire, mais ils la revendent aux voisins parce qu'on y cultive beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de tessons de céramique, parce que ce sont des sites qui ont été très densément occupés. Et ça fait 40 ans seulement qu'on travaille là-dessus. Il me reste, je crois, deux images. Ils ont énormément transformé donc le couvert végétal, le sol, mais aussi la superficie du sol en creusant pour faire des énormes monticules d'habitat, des monticules de coquillages, des chemins qui sont creusés ou surélevés, et si surélevés pour traverser des zones inondées, et puis des pièges à poissons, des pièges à animaux, qui autrefois échappaient un peu au regard, et ça aussi on a commencé à les regarder autrement à plusieurs. Et puis évidemment des structures beaucoup plus complexes qui sont sans doute ces grands fossés. Il y en a des centaines dans l'ouest de l'Amazonie qui servaient probablement l'hypothèse actuelle pour des grandes réunions collectives. Les autochtones ont un sens du collectif très fort et donc se réunissent beaucoup. Et puis on a même trouvé de l'urbanisme.
Ben justement, on a trouvé de l'urbanisme. C'est quand même, vous avez fait, il faut le dire, la une de Science, la prestigieuse revue américaine, il y a exactement un an, Stephen Rostin, avec cette cité perdue. C'est comme ça que ça a été intitulé. Il y a plusieurs cités perdues, plusieurs cités jardins, ouais, sous le couvert de la forêt amazonienne. Une découverte qui a stupéfié non seulement la communauté des archéologues, mais vraiment le monde entier. On n'imaginait pas ça. Est-ce que vous-même, Stephen Rostin,
vous imaginiez
trouver, alors effectivement, c'est mythique, les cités perdues, mais plusieurs cités perdues, plusieurs cités jardins, totalement oubliées.
En plus, moi, une des raisons pour lesquelles j'ai quitté les Mayas, c'est parce que les sociétés hiérarchisées, centralisées, expansionnistes, violente, ça ne me plaisait pas des masses. Donc en Amazonie, j'étais peinard, j'étais sûr que j'étais sur des sociétés égalitaires.
Et
mais,
voilà.
Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.
Parce qu'effectivement, là, c'est a priori une société beaucoup plus.
Oui, là, elle est forcément structurée.
Qu'est-ce que vous avez découvert, grâce notamment au LIDAR et à toutes ces technologies?
Alors, on connaissait ces sites, enfin, un en tout cas, on connaissait des sites à monticules. Moi, j'avais fouillé pendant 7 ans, il y a 30 ans là-bas. En Équateur, le site était connu depuis 10 ans, il avait été signalé par un prêtre, et il y avait eu quelques petits travaux archéologiques, mais vraiment trois fois rien. Moi, j'ai fait des grandes fouilles par décapage, et après c'est retombé un peu dans l'oubli, jusqu'à ce que le LIDAR, que l'État équatorien fasse une couverture LIDAR. Vous savez, le LIDAR, c'est une espèce de radar, c'est pas vraiment un radar, c'est des rayons laser qu'on envoie par millions et qui certains passent entre les feuilles, et finalement il y a le rebond fait que on peut reconstituer sur ordinateur la superficie du sol sans la végétation. C'est comme un sonar, mais au lieu d'être un écho, c'est un rayon laser. Et donc ça permet de voir littéralement sous la forêt. Et là,
Qu'est-ce qu'on a vu sous la forêt?
Ben c'est là où, j'étais surpris, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai travaillé avec un collègue, Antoine Dorizon, spécialiste du LIDAR, pendant 2 ans, à regarder les images. Et tous les matins, j'étais waouh, c'était impressionnant parce que je savais qu'il y avait quelques dizaines, voire centaines de monticules. Et je m'étais trompé. Il y en avait des milliers. Et puis, il n'y avait pas une seule cité, mais plein de cités, et tout interconnecté par des routes parfaitement droites, creusées parfois sur 5 mètres de profondeur, et qu'elle est toute droite d'un site à l'autre. Des rues, un quadrillage de rues que vous voyez un peu ici, creusées aussi, et puis des ensembles de monticules autour d'une place, d'un patio. Et puis encore des champs drainés, c'est pour ça qu'on les appelle des cités-jardins, entre les espaces vides, on avait des champs drainés. Tout avait été utilisé. Il y avait aussi des terrasses, il y avait des billons, il y avait toutes sortes de structures. Tout le sol avait été transformé. Et tout ça est daté, commence il y a 3000 ans et dure 1600 ans, jusqu'en 600 de notre ère. C'est-à-dire avant que les grands terrassements se fassent en Amazonie, c'est-à-dire aux alentours de l'an 1000. On avait déjà des sociétés urbaines très précoces en Amazonie.
Est-ce qu'on sait comment, justement, comment vivaient ces populations ces cités-jardins? Qu'est-ce qu'on a pu, à partir de cette découverte?
C'est vraiment une découverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fouille, après. Il n'y a pas eu de fouille avant, à part les 7 ans où j'ai fouillé, où j'ai quelques éléments. Mais on parle quand même de 2000 km². Donc, c'est pas demain qu'on saura. On peut induire des choses. Il fallait, pour qu'on faisait ça, des terrassiers qui faisaient ça à plein temps. Il fallait les nourrir. Donc, il y avait des gens spécialisés, des paysans qui cultivaient pour eux. Il fallait bien manger les protéines animales. Donc, il y avait des pêcheurs. Il y avait peut-être des chasseurs nomades qui passaient, à qui on échangeait de la viande. Il y avait, pour tracer ces routes parfaitement droites dans la forêt, il fallait des géomètres. Il fallait des gens qui savaient, des architectes qui savaient dire, par là, sans doute, comme aujourd'hui, grâce à l'astronomie, il y avait des prêtres, il y avait des marchands, parce qu'on a retrouvé des céramiques dans les Andes qui avaient été échangées, et puis probablement, très probablement, un chef ou un roi. Mais on en est qu'à. Ce lidar nous permet juste d'avoir égratigné la surface de ce que pouvait être cette société urbaine.
D'avoir montré qu'existaient des sociétés urbaines, des cités-jardins dans cette vallée équatorienne. Est-ce qu'il y a d'autres traces, maintenant qu'on sait que ça existe, qui explicitent justement...
Il y a des systèmes pré-urbains ou urbains ailleurs, en Bolivie notamment. Ils ont trouvé beaucoup de régions spécialisées. Aussi dans le sud de l'Amazonie brésilienne, dans le Xingu, dans ce qu'on appelle le sud-ouest amazonien, où il y a eu beaucoup de dynamiques aussi, notamment de domestication de plantes, il y a des systèmes urbains ou pré-urbains. Alors, pas avec ce quadrillage-là, c'est le seul site, la seule région où on connaît ça, mais il y a eu, et c'est plus tardif dans le sud. Faut toujours penser à l'Amazonie, c'est pas un grand bois. C'est un continent.
C'est ça.
Et 7 millions de kilomètres carrés, c'est presque la taille de l'Europe. Donc, il faut la penser comme ça.
Et donc, ça montre quoi? La diversité? La diversité des sociétés, la mosaïque de peuples qui ont transformé l'environnement, mais pas seulement. Enfin, une diversité qu'on n'imagine pas.
Alors, je vous donne un simple exemple. En Amazonie, on parle encore aujourd'hui de 350 langues. Pas des dialectes, des langues qui appartiennent à 60 familles linguistiques. En Europe, quoi, on a une trentaine de langues, 4 familles linguistiques dans ces eaux-là. On est sur une méga-diversité qui est voulue, qui n'est pas accidentelle, de ces gens qui ont voulu développer leur diversité. Et c'est simple, l'Amazonie, vous pensez à un chiffre, vous rajoutez un zéro et vous êtes dedans. Et parfois même deux.
Et... qu'est-ce que ça dit pour nous? Je trouve que ça dit énormément de choses, parce qu'à la fois, vous avez mis au jour des sociétés extrêmement diverses, qu'on ignorait, qu'on méprisait, qui n'existaient pas. Qu'est-ce que ça dit sur notre manière d'avoir été archéologue ou de l'être aujourd'hui, sur notre impact aussi sur l'environnement? Enfin, il y a quand même pas mal de pistes, là, pas seulement patrimoniales, mais pas mal de pistes pour nous aujourd'hui.
Je pense qu'on n'avait qu'une chose à faire, il faut apprendre à écouter les autochtones. Ce qu'on n'a pas su faire pendant 5 siècles, il faut peut-être faire un peu preuve d'humilité Chaque fois que j'écoute des autochtones, j'en apprends beaucoup plus. Et je pense que les archéologues, là, ont saisi quelque chose qui manquait un peu à nos sociétés. Je me souviens avoir présidé une commission de la COP21 quand elle était à Paris. Et quand j'ai vu les gens qui présentaient, donc il y avait une douzaine de vieux mâles blancs européens, et j'ai commencé en disant, écoutez, où sont les autochtones, quoi. On va parler de l'avenir des tropiques et il n'y a pas un seul habitant. Une fois de plus, on avait refait le schéma de... j'avais pas décidé des invités. Hein. Un schéma de le nord décide pour le sud. Nous, on sait faire des histoires et eux n'ont pas d'histoire. Et ils n'ont pas intérêt à en faire.
Est-ce que justement, toutes ces découvertes et ce collectif d'archéologues et de notions qu'on n'imaginait pas il y a quelque temps que vous mettez en avant et qu'on peut lire dans cet ouvrage, est-ce que ces découvertes... par rapport à la communauté archéologique, est-ce que vous avez un message à donner à des jeunes archéologues? Est-ce qu'il faut continuer dans ce sens-là? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que aujourd'hui, ceux qui vous méprisaient peut-être un peu ou regardaient de haut ont un peu changé d'avis?
Faut leur demander. je ne me mouillerai pas là-dessus. Regardez la presse. Chaque année, Géo ou l'Histoire fait un numéro spécial, généralement c'est entre juin et juillet, spécial Maya. Tous les trois ans, ils font un numéro spécial Inca. L'Amazonie, l'Histoire a fait une fois un numéro spécial Amazonie il y a cinq ans.
Mais la prochaine fois, ils vont faire les cités jardins et la cité perdue. Et les peuples autochtones au pluriel, parce que c'est quand même qu'il faut mettre en avant.
Il faut vraiment repenser. Les tropiques, on les a toutes vues, mais c'est pareil en Afrique et dans le Pacifique. On a toujours vu les tropiques avec un mépris incroyable. Et on n'a pas voulu apprendre, lire vraiment ces tropiques, parce qu'on est arrivé avec une supériorité technologique qui nous a fait croire qu'on pouvait dominer cette forêt. On est une société qui a quand même détruit des forêts depuis le Moyen-Âge, et on en est très fiers. Sylvestre, ça vient de Sylvicus, Sylviticus, du latin, qui veut dire « sauvage ». Donc les habitants de la forêt sont des sauvages. Et c'est une idée qu'on a eue dès qu'on a mis les pieds en Amazonie, c'est de penser que c'était peuplé par des sauvages. Et comme ils étaient dénudés par la chaleur, ça confirmait bien cet esprit sauvage. Surtout qu'avant de les atteindre, parce que longtemps on n'a pas rentré en Amazonie, on avait eu un mur de dents sur la côte brésilienne, puisque c'était peuplé de Tupinambas cannibales. Ce qui allait dans le sens de la sauvagerie. Et donc, on a un peu assimilé tous les habitants pendant longtemps de l'Amazonie à des cannibales. Et quand on a pu rentrer enfin en Amazonie, à partir du 17e qu'on a exploré l'intérieur, il n'y avait déjà plus d'autochtones, puisqu'ils étaient à 85% morts des maladies importées.
Qu'est-ce que vous voudriez, parce que Stéphane Rostin, vous êtes auteur de documentaires, il y en a un qui va passer d'ailleurs tout à l'heure sur France 5, hein, à 21h, je pense qu'on aura le temps de le voir autour justement de ces cités perdues d'Amazonie, mais qu'est-ce que vous voulez faire passer à travers vos conférences, à travers vos ouvrages, qui sont à la fois parfois grand public, plus universitaire et très complet comme cette archéologie de l'Amazonie? Qu'est-ce que vous voulez nous faire passer, que ce soit aux universitaires, que ce soit au grand public?
Quand j'ai commencé, l'Amazonie restait un grand blanc pour beaucoup de gens. Quand je suis rentré de mon dernière longue affectation en Équateur, il y a 10 ans, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de bouquins sur l'Amazonie. Il y avait des livres d'ethnologues, pas mal. Mais sinon, sur l'histoire de l'Amazonie, il y avait deux livres en France. Il y avait un écrivain qui avait écrit un très beau livre sur l'histoire de l'Amazonie, Soublin, en 2005. Et en 88, il y avait Gerbrandt, qui avait été explorer l'Orénoque, qui avait fait un joli Gallimard. Sauf que ces deux livres commencent avec l'arrivée des Occidentaux. Donc l'histoire commence en 1500, avant le déluge. Et je me suis dit, mais c'est dingue que personne n'ait écrit là-dessus. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'archéologue travaillant en Amazonie. Donc c'est pour ça que je me suis collé à essayer de remplir le blanc qu'on avait dans la connaissance de l'Amazonie. Et j'ai commencé à écrire pour le grand public, parce que dans mon idée, C'est un peu la finalité de l'archéologie, c'est pas d'aller faire le pan dans les cocktails de congrès. Je pense qu'une étape plus intéressante, qui est de communiquer avec le public, d'où les conférences que je fais, d'où les livres que je sors. Celui-là, il est un peu un entre-deux. Il est à la fois académique, mais il se veut aussi accessible à tout le monde. Mais c'est l'idée de faire connaître une. Et puis, en ayant vécu 10 ans en Guyane, je me suis rendu compte que ce qui gênait les Guyanais, et là pas seulement les autochtones, c'est que jusqu'en 2000, on leur enseignait quand même nos ancêtres les Gaulois. Moi, je me suis beaucoup intéressé au manuel scolaire, c'est terrible, quoi. Je crois que le premier manuel scolaire en Guyane qui parle de l'archéologie, enfin, ce ne sont que 3 pages. D'ailleurs, c'est drôle parce que en archéologie, pour la Guyane, au lieu de parler de ce qu'on sait des populations, on va parler des techniques de l'archéologie. Et on montre que des photos d'archéologues ou des gravures anciennes pour montrer l'archaïsme de ces populations. Donc il y avait un effort, mais ça restait encore quelque chose d'assez colonialiste. Maintenant, tout ça change avec des productions réellement destinées aux habitants et qui ne parlent pas que des Gaulois.
Est-ce que vous avez été surpris, Stephen Rosta, et on peut le voir dans ce livre collectif « L'archéologie de l'astronomie », par la diversité des découvertes, en fait, qui ont pu être réalisées en archéologie en Amazonie au pluriel, hein.
On est tous les archéologues, on est beaucoup plus nombreux, maintenant on est plus de 200. On est à chaque fois stupéfait de ce qu'on sort. Le plus vieux cacao du monde n'était pas au Guatemala, mais bien en Amazonie. La plus vieille céramique, je l'ai dit. Et puis, des tas de choses qui sont découvertes. Il y a maintenant une multiplication des articles, et je peux vous dire, à chaque fois, tous les archéologues de l'Amazonie sont stupéfaits de... Je vais la faire rougir, mais Gabriela Prestes-Carnero, donc, qui est maître de conférence au muséum et qui est arrivée il y a 3 mois en France, elle s'est penchée sur un thème qui n'avait jamais été abordé en Amazonie, qui sont étudier les poissons d'avant l'arrivée des Européens dans les sites archéologiques. Donc elle a étudié les ossements et personne ne les avait. Alors que le poisson est une des principales nourritures actuelles et probablement d'avant. Donc elle a pu confirmer qu'en effet, la diète reposait beaucoup sur le poisson, mais surtout sur des poissons qui sont plus consommés aujourd'hui. Elle a trouvé des 60% d'os d'anguilles fouisseuses en Bolivie et qui donc constituent l'essentiel de la diète et que j'ai voulu montrer tout à l'heure un piège à anguilles. On utilisait, ça a pu être démontré, utiliser les capacités naturelles de certaines anguilles à s'enfouir dans les zones humides durant la saison sèche pour survivre. Elles hibernent un peu. Il n'y a pas de terme pour hiberner l'été. Enfin, c'est ça l'idée. Et elles ressortent après. Et ils ont construit des pièges pour qu'elles viennent avec des faux bassins, des bassins artificiels dans lesquels elles viennent se mettre. Et ça fait un garde-manger à disposition près des sites. Donc, ça, c'était stupéfiant. Et donc, chaque archéologue maintenant qui arrive en Amazonie apporte un élément de connaissance fondamental. Les archéologues autochtones apportent aussi un nouveau regard sur leur histoire parce qu'ils ont un passif complètement différent d'une autre.
De quoi nous inspirer aujourd'hui, ça c'est sûr. Une note plus sombre. Je vous cite, vous aviez dit dans un article du Monde, et je trouvais que cette phrase m'avait frappée, que l'Amazonie c'est un passé renié, un présent enfumé, un futur hypothéqué. Bon, on est dans du lourd, là, mais ouais, c'est quand même une réalité.
Mais c'est une réalité. Je crains, hélas, que cette année prouve que, on le dira, le futur le dira, qu'on est passé au point de bascule. Ça fait des années que les scientifiques disent que l'Amazonie va passer à un moment à un point de bascule à force de déforestation. Depuis 40 ans, on a déforesté, quand je suis arrivé en Guyane, on a déforesté 12,5% de la forêt. Et les spécialistes de la végétation disent qu'à un moment, ça va basculer comme ça l'a fait en Afrique. Hein. On aura un phénomène de savanisation et ça va être une spirale qui va aller vers le sec à force de... Parce que cette forêt respire, cette forêt produit de l'humidité. Hein. Récemment encore, tout ça sont des découvertes qui ont moins de 10 ans. On a des... Un chercheur brésilien a découvert qu'il y avait des forêts aériennes. La transpiration de la mer au large de l'Amazonie renvoyer de l'humidité, de l'eau en suspension, qui passait au-dessus de l'Amazonie, qui en envoyait aussi beaucoup. Et cette humidité, cette rivière volante, comme ils les ont appelées, vont arroser le sud du Brésil sec. C'est ce qui permet de cultiver dans le sud du Brésil. Et on a trouvé encore plus récemment une autre rivière qui est sous l'Amazone, à 5 km sous l'Amazone, qui est un aquifère. Et donc, c'est des écoulements d'eau qui viennent depuis les Andes. On découvre des choses incroyables régulièrement sur l'Amazonie. Et donc, je pense que ça vaut le coup qu'on connaisse avant qu'elle soit détruite. Ce qu'il y a, c'est que je crains que cette année nous prouve qu'on a passé ce fameux point de bascule, puisque malgré les mesures prises par Lula pour freiner la déforestation, elle n'a jamais autant cramé. Et ça, c'est que c'est pas tout. Enfin, le départ des feux est toujours d'origine humaine, c'est toujours criminel, si je puis dire. Mais ces feux sont beaucoup plus répandus parce que la végétation était sèche. Depuis 2023, l'Amazonie connaît une énorme sécheresse. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, notamment sur la Guyane ou sur l'Amazonie, de rivières à sec. Et donc, la végétation a séché. Et donc, le moindre feu se répand beaucoup plus rapidement qu'avant. Et c'est ça, cet effet de bascule. Et je me demande si on ne vient pas de le franchir cette année.
On va finir parce qu'on va se dire qu'il y a encore énormément de découvertes à faire. Là, on est dans les cités jardins et les cités perdues. Ça fait du bien. Et ça, c'était donc il y a
3000 ans.
Il y a 3000 ans.
Entre moins 3000, moins 1000 et plus 600.
Stéphane Rostin, juste une petite question très personnelle. Le sentiment, quand vous avez vu réaliser ça, réaliser l'ampleur de ces cités-jardins et donc de cette découverte et aussi de votre, je ne sais pas si l'acharnement, mais votre acharnement, votre persévérance à fouiller ce qu'on ne voulait pas fouiller, ou cela où il n'y avait rien, c'était quoi votre sentiment à ce moment-là?
Ça vaut le coup d'être têtu de temps en temps. Non, j'étais, je ne m'y attendais pas du tout à cette révélation, parce que...
C'est une révélation à tous les sens du terme.
Oui, et je ne m'y attendais pas du tout. Je savais que des monticules, j'avais vraiment fouillé plusieurs sites, et il y avait des choses, mais je ne pensais pas que ça avait cette ampleur, et surtout que c'était un paysage entièrement interconnecté par ces routes. J'avais vu des départs de route, mais je ne savais pas si ça connectait d'autres sites. Et là, c'est tout droit. Il n'y a pas de raison de faire une route tout droite, de raison pratique. Pourquoi faire une route toute droite si tous les chemins aujourd'hui amérindiens sont plutôt sinueux, sauf dans le Haut-Xingu? Si on fait une route droite, il y a une autre raison qui est pratique. Pourquoi couper une colline? Parce que c'est creuser des collines pour passer au travers ou passer dans des ravines si on peut les contourner. Donc il y avait un sens dans les deux sens du terme, à faire ces routes droites. Et je pense que l'idée était d'imprimer des relations privilégiées entre différentes cités, comme on va retrouver un peu au Xingu aujourd'hui, où ils ont des routes aussi droites, mais moins creusées que ça. C'est pour imprimer une relation privilégiée avec son voisin.
Donc des cités interconnectées, c'est bien
voilà,
ça.
Voilà, c'est
hein.
Ça. C'est le web de l'Amazonie, là, vous voyez.
On y était et on ne le savait même pas.
Mais non, je ne m'attendais pas. Je savais qu'il y avait beaucoup de diversité, qu'on pouvait... Aujourd'hui encore, il y a des groupes nomades qui côtoient des groupes très sédentaires. On voit dans l'archéologie qu'il y a eu des populations qui ont développé une certaine hiérarchisation, une culture intensive, alors que d'autres restaient de chasseurs. Il y avait beaucoup de diversité. C'est pour ça qu'on arrive à dater des événements quand ils démarrent, mais beaucoup moins quand ils s'arrêtent, parce que souvent, ils ne sont pas arrêtés jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce livre cherche un peu aussi à présenter différents aspects. Il n'est pas chronologique. Mmh. Il réunit une vingtaine de chercheurs très acharnés sur l'Amazonie. Beaucoup de chercheurs sud-américains, évidemment, mais aussi quelques Nord-Américains, Européens. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont là. Et donc, c'est d'essayer de donner un état de ce qu'on sait, une espèce de petite encyclopédie sur le
sacrée encyclopédie. Vous pouvez feuilleter d'ailleurs parce que c'est voilà. Enfin, il y a des illustrations aussi extraordinaires. Enfin, c'est enfin, je pense que ce livre doit et devra faire date. Est-ce que ça suscite des questions?
Mais comme de toute façon, C'est un lancement aujourd'hui, non?
Oui, absolument.
Eh bien, on va le lancer. Et si il attrape le garde.
Ah ben voilà, ça y est, c'est récupéré. Est-ce que ça suscite, pas des lancers, mais questions? Alors attendez, je vais peut-être vous amener mon micro, s'il sera plus facile pour vous.
Merci beaucoup de votre présentation. Moi, j'ai commencé à travailler il n'y a pas très longtemps sur la plaine de Mojos, en Bolivie, et sur le réseau de lagunes qu'il y a à Mojos. Et du coup, il y a un front de modernisation très important qui est en train de, enfin, l'État bolivien est en train de construire beaucoup de routes dans cette partie de l'Amazonie bolivienne. Et du coup, ça a généré un discours local chez des autochtones autour de San Ignacio qui parle beaucoup de cette civilisation de l'eau, une ancienne civilisation de l'eau qui est liée à ce réseau lacustre. Et donc, j'ai croisé les travaux de Humberto Lombardo, Frank Mail.
Qui vient de publier dans la Nature un article hier.
Ah d'accord, je vais aller voir, merci. Mais donc je rebondis par rapport à ce que vous disiez sur qui écrit l'histoire. J'ai pas l'impression que ce genre d'archéologie soit très en communication avec les réalités sociales locales. Je voulais avoir votre avis sur leurs travaux. Et aussi, une autre question, mais qui est aussi corrélée à celle-ci, comment est-ce qu'on peut faire de l'archéologie comme vous souhaitez, c'est-à-dire avec des échelles plus médianes en Amazonie, où en fait on a l'impression que les archéologues arrivent parce que c'est un peu, vous l'avez mis un peu à la mode, ils arrivent, ils veulent faire des énormes découvertes, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment de lien avec.
Non, il n'y a pas de recherche de faire des découvertes, ils les font sans penser qu'ils vont trouver ça. Moi, je n'ai jamais cru que j'allais trouver ça. Ça tombe dès qu'on regarde vraiment. De toute façon, on ne voit que ce qu'on regarde, hein, c'est quand même la base. Et on a appris à regarder. Et c'est vrai, alors la Bolivie, c'est un bon exemple. Ma co-éditrice, Carla Jaimez Betancourt, qui est bolivienne et professeure à l'université de Beaune, travaille depuis 25 ans dans les llanos de Mojos, les basses terres. Elle a été très critiquée quand elle a commencé parce qu'elle avait fait ses premières études sur place. Et là-bas, c'est Tiwanaku ou rien. Et elle a décidé d'aller les basses terres. Et elle s'est accrochée, elle a vraiment formé à l'école allemande avec Eco Prümer. C'est vraiment des archéologues d'un très grand sérieux. Et Carla, aujourd'hui, elle dynamise l'archéologie en faisant de l'archéologie participative, collaborative avec les autochtones. Et ce n'est plus les archéologues qui décident seuls. Par exemple, Eduardo Gabriela me disait, Eduardo Neves, qui fouille à la frontière avec la Bolivie, demande aux groupes autochtones ce qu'ils veulent savoir et finalement décider comment fouiller. Gabriela fait pareil dans le Bas-Amazon. Et de plus en plus, c'est pas artificiel. Il y a vraiment un partage. Alors, il y a des méthodes qu'on a à l'archéologie, des méthodes aussi de traitement des données. Mais maintenant, les autochtones sont pris au sérieux et sont dans l'échange. Et la plupart font des études et produisent des articles, produisent de la connaissance avec un regard critique sur ce qu'on fait nous aussi. Donc c'est plus l'archéologue qui arrive tout seul. Comme je disais au début de cette présentation, on travaille toujours maintenant tous en collaboratif avec d'autres sciences et d'autres savants. C'est plus ce que vous dites, le blanc qui vient gratouiller un peu et qui après retourne dans sa tour d'ivoire pour rédiger son mémoire. Non, ça, c'est, je pense que c'est un temps qui est heureusement largement dépassé. Mais c'est vrai que ça se fait pas partout. Hein. J'ai cité la Bolivie où ce dynamisme existe. Pas tous les archéologues, hein, on est d'accord, mais je ne donnerai pas de nom, parce que je vois que vous voulez que je dise des noms, je n'en donnerai pas. Et au Brésil, qui est vraiment le fer de lance pour ça. Le Brésil, depuis, je dirais, 25 ans, est le fer de lance de l'archéologie amazonienne. Et, c'est eux qui ont la plus grande Amazonie, certes, mais ils ont aussi des grands progrès là-dedans. Et là-bas, je ne sais pas, mais je pense même pas qu'il y aurait des autorisations s'il n'y avait pas une prise en compte des habitants alentour pour mener une recherche. Il consacre, Gabriela toujours me disait l'autre jour, il consacre 50% des budgets alloués à une fouille pour la diffusion locale. 50% pour faire des vidéos, faire des livres. On n'en est pas là en France, hein, je peux vous dire. Et pas en Bolivie non plus. Mais il y a assez la dynamique. Et là, je suis obligé de le dire, c'est souvent porté par des femmes, archéologues qui ont peut-être plus d'empathie que les hommes. En tout cas, si on regarde les actions, c'est vrai que c'est souvent comme ça. Mais c'est bien que vous soyez mis aux basses terres boliviennes, parce que ça manque d'archéologues. Hein.
Oui, moi je voulais savoir, tu dis, on apprend à regarder ce qu'on voit, mais qu'est-ce qui t'a amené par exemple à faire une couverture au Lidar? Et pourquoi tu as choisi cette région? C'est parce que tu savais déjà qu'il y avait des sites?
Non, parce que j'avais pas mal bourlingué, pendant 7 ans j'avais pas mal bourlingué dans cette région, et j'avais des manques, j'avais vu des monticules, il y en a plein qu'on loupe, parce que c'est une région extrêmement bosselée, on va dire, parce qu'elle est sillonnée de nombreux cours d'eau, et je m'étais dit que je loupais plein de trucs. Notamment, ma première question avec le Lidar, c'est est-ce que les routes qui partent, qui sont si droites dans les sites, qui sont souvent ouverts parce que des colons ont planté, déforesté et planté de l'herbe à pâturage. Donc, moi, j'ai des photos de survol aérien, mais on voyait qu'un petit bout à chaque fois. Et j'avais envie de savoir si ces routes allaient toutes droites. C'était impossible de les suivre. Et ça a été la première question sur le Lidar. Et j'ai rencontré des gens, un ancien colonel de l'armée russe, qui s'était spécialisé, qui vendait ses services pour du Lidar, et je l'ai poussé à aller dans cette région, et c'est lui qui a fait pour le compte des Équatoriens l'imagerie Lidar sur 600 km², ce qui est déjà énorme hein, comme superficie. Et donc ma première question, ça a été en effet les routes, qui m'intéressaient peut-être plus que les monticules, mais après, plein de choses sortaient. Quoi. Plus on allait profondément dans... Les Lidars, c'est après, quand l'image, c'est des filtres. Et donc, des filtres qui révèlent des choses, la manière de mélanger les filtres. Ça, c'est Antoine Dorizon qui m'a montré comment il faisait. C'est lui-même qui a d'ailleurs un peu mis au point cette technique de multiplication des filtres. Et lui-même, qui avait travaillé au Mexique, au Guatemala, et beaucoup sur l'agriculture, était stupéfait de ce qui était révélé. Parce que lui aussi, étant méso-américaniste, avait peut-être au départ un peu ce regard sur l'Amazonie. Et ça l'a aussi fait radicalement changer sa vision sur ces peuples. Mais c'est vrai que je soupçonnais qu'il y avait peut-être autre chose. Et puis c'était assez... quand tu es sur le terrain, tu as des herbes de 2 mètres de haut, remplies de chenilles urticantes... qui sont très douloureuses, on ne voit pas grand-chose. Et même repérer un monticule, savoir où ça descend, c'était toujours un peu difficile. J'avais pas de vision d'ensemble. Surtout que j'ai travaillé cette région, quand j'ai débarqué là-bas en 1995, il y avait une carte de... carte de 25 millième de toute l'Amazonie équatorienne. Sauf là, il y avait une carte blanche. Pourquoi ? Parce que Amacas, donc le village le plus proche, il y avait un aérodrome, et comme ils étaient en guerre avec le Pérou, hein, la paix a été signée en 97 seulement, après 70 ans de guerre entre le Pérou et l'Équateur, pour un bout de forêt, hein, ils ne voulaient pas que les Péruviens connaissent où était exactement l'aérodrome. Et comme ce sont les militaires qui font les cartes, on n'avait pas accès à cette carte. Moi, j'avais demandé, j'avais une carte blanche. Quoi. Donc, on ne voyait rien. Mais je me disais, ce n'est pas possible. Il n'y a pas une ville toute seule comme ça en forêt. C'est absurde. Et on a découvert des monticules à côté. Mais à chaque fois, on voyait vraiment un petit bout de la ville. Quoi. Un iceberg, on voyait juste la pointe des terrassements. J'avais fait beaucoup de photos, parce que j'avais l'expérience avant en Guyane de l'archéologie du paysage, et j'avais photographié des trucs que je n'avais pas compris non plus. Des drains, par exemple, de champs. Et c'est seulement avec le Lidar que j'ai vu que c'était des quadrillages de champs drainés. à l'intérieur des villes, d'où le nom de cité-jardin. C'est-à-dire que ça intègre les éléments... Alors, jardin, c'est le terme le plus faux, parce que c'est plutôt des cités-champs, mais c'est peut-être pas assez joli. C'est des champs qui sont à l'intérieur de la ville, quoi. Comme d'ailleurs, ils sont en train de le révéler aussi chez les Mayas. Les Mayas, ils ont trouvé ce type de champ drainé. J'ai une amie qui travaille là-dessus, et dans mon labo, on apprend à regarder beaucoup plus de paysages, parce que finalement, la réussite de la société, de l'intégration des sociétés autochtones à la forêt, ont été aussi une damnation pour eux, puisque les Européens n'ont pas voulu voir ou n'ont pas su voir comment cette adaptation à la forêt tenait du mutualisme et était favorisait la résilience. Ça, on n'a pas voulu le voir, on n'a pas su le voir, on n'a pas voulu pendant longtemps parce que ça nous a aidé à confisquer les terres. Il y a un vieux texte de loi romain qui dit que le propriétaire d'une terre est celui qui la cultive. Et donc, quand on a vu que les autochtones n'avaient rien fait, on leur a dit, vous n'êtes pas propriétaire de ces terres puisque vous n'avez pas su les valoriser. Nous, on va les valoriser, donc elles sont à nous. Nous, c'est la tronçonneuse qu'on valorise. Bon, chacun sa technique. Et donc, on a confisqué les terres. On a fait la même chose en Amérique du Nord pour confisquer les terres. On n'a pas voulu voir comment ils avaient... Mais on oublie quand même que nous, on est là depuis 500 ans, 400-500 ans, et les autochtones sont là depuis 13 000 ans. Ils ont eu le temps vraiment d'apprendre bien mieux. Ils ont une science qui est assez peu étudiée, hélas, mais ils ont vraiment une science de leur environnement très fine. Déjà que le manioc soit la plante de base aujourd'hui, qui est une plante qui contient du cyanure, faut quand même, c'est risqué. C'est comme si l'anamite était notre plante de base. Ben, ils ont inventé des techniques pour détoxifier la plante, pour enlever le curare de la plante avant de la consommer. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y a vraiment donc une connaissance très scientifique qui n'est pas cartésienne, mais qui est une connaissance scientifique du monde alentour. Oui.
Oui, la découverte des champs surélevés sur le littoral de Guyane, je crois savoir que ça permet à la population autochtone de vivre beaucoup mieux, c'est beaucoup plus productif. Et donc, à partir de là, est-ce qu'on peut imaginer que la densité de population sur le littoral de Guyane était beaucoup plus forte que la densité en pleine forêt de l'intérieur? Et est-ce qu'on peut en déduire que la population totale de Guyane avant l'arrivée des Européens était probablement complètement différente? Je crois me souvenir qu'en calculant la surface possible sur le littoral guyanais de champs surélevés, on pourrait dire qu'il y avait sur tout le littoral 60 000 Amérindiens, alors que dans tout l'intérieur, qui fait à peu près 84 000 km², il n'y avait que 30 000 Amérindiens, donc beaucoup plus sur le littoral finalement réduit par rapport à l'ensemble de la Guyane, ou peut-être que je me trompe. Alors, avec ces densités,
j'ai longtemps cru que cette densité de champs, ce sont des milliers de champs et donc des milliers d'hectares cultivés. D'abord, il n'y a pas forcément... Alors, j'ai longtemps cru que ça correspondait à une population dense. Et puis, j'ai eu la chance de travailler avec un écologue un peu différent des autres, puisque cet écologue qui s'appelle Dol Mackay est le seul écologue à savoir qu'il y a des humains sur Terre, et donc en tenir compte. Et c'est avec lui que j'ai fait mon deuxième projet sur les champs surélevés. Il a travaillé beaucoup sur la reprise des champs surélevés qui se sont maintenus grâce aux fourmis champignonistes. Vous savez, les marabunta qu'on voit dans le film d'horreur des années 50. Mais dans la forêt, on les voit à la queue leu-leu avec des grandes feuilles, transportant les grandes feuilles. Les Brésiliens, ils appellent les windsurfeuses, d'ailleurs, parce qu'on a l'impression de voir une compétition de windsurf. Donc, ces fourmis ont repris les champs après et les ont maintenus. Et c'est grâce à lui qu'on a pu découvrir ça. Mais après, il a été travailler en Afrique. Et en Afrique, il s'est rendu compte qu'il y avait des champs, il y a beaucoup de champs surélevés encore. Il n'y a personne qui travaille dessus, mais il y en a. Et il a pu observer les champs surélevés utilisés aujourd'hui. Et en réalité, il suffit d'une famille pour pour faire des superficies importantes. Donc l'histoire de la démographie inférée d'après Champsurélevé, c'est vrai que j'avais donné des chiffres il y a 40 ans là-dessus, mais heureusement la science avance et puis on peut se tromper et puis on peut penser différemment avec le temps. Je ne vais plus me lancer sur des comptages, j'ai voulu le faire, et même ici aussi j'ai voulu le faire, on est en train de travailler dessus, mais ça reste très aléatoire. Et puis dans une région, il peut avoir 5 habitants au kilomètre carré, et à côté, il peut avoir 1 habitant au kilomètre carré. On ne peut pas inférer sur des grandes superficies. Donc je ne vais pas trop sur... ce qui est sûr, c'est que vu les sites archéologiques, vu ce qu'on trouve, il y avait du monde. Ça, c'est, il y avait plus de monde sur le littoral qu'à l'intérieur, en tout cas au moment de l'arrivée des Occidentaux. Il y avait eu aussi un phénomène de changement climatique et des guerres qui avaient fait tomber la démographie avant l'arrivée des Occidentaux. Mais c'est sûr qu'il y avait plus de monde. De là à donner des chiffres, je reste très prudent. Je sais que Donovan, qui était un géographe qui s'était beaucoup intéressé à l'Amazonie, mais aussi aux Andes, proposait des chiffres entre 8 et 10 millions d'habitants au kilomètre carré, 8 à 10 millions d'habitants en Amazonie au moment de l'arrivée des Occidentaux. J'ai longtemps cru ces chiffres assez bien travaillés. En réalité, ceux qui habitaient sur le Rio Negro n'avaient pas la même démographie que ceux qui étaient dans la forêt tout à côté à l'intérieur. Et ceux du sud de l'Amazonie avaient d'autres organisations. On ne peut pas généraliser, quoi. On ne peut pas dire qu'il y a tant d'habitants au kilomètre carré en Amazonie. Ça serait comme la même chose que dire en Europe, il y a tant d'habitants au kilomètre carré. Dans le sud de la Corse, il n'y a pas la même démographie que... en Hollande, et on ne peut pas faire de moyenne, puisque en Angleterre c'est différent. En Angleterre et pas en Europe, en Allemagne, voilà.
Oui, ce n'est pas une question, mais c'est simplement une précision que je voudrais apporter quand vous avez parlé de la diversité des langues. Alors, c'était très intéressant. Le continent américain se caractérise par une grande diversité de typologies linguistiques, de familles linguistiques. Tandis que, par exemple, en Afrique, il y a un peu plus grand nombre de langues, mais ces langues sont distribuées dans des familles, bantous, etc. Oui. Et donc, c'est encore une richesse supplémentaire par rapport à d'autres continents.
Alors, il y a, en Iranjaya, par exemple, oui. Il y a un coin où il y aurait 2000 langues parlées. Hein, donc,
oui, oui.
Il y a des endroits où il y a encore plus de diversité linguistique.
Il y a encore un certain nombre de langues qui sont non classées.
Oui.
Donc, qui appartiennent à aucune famille, comme le Yanomami.
Le Chouar, la Chouar.
Le Yanomami constitue une famille en soi. Ouais.
Ben, les Jivarophones, par exemple, ils sont huit ethnies différentes.
J'avais simplement une question, mais alors, ça fait tellement longtemps et je regrette de ne pas me souvenir du nom de l'anthropologue, de l'archéologue américain qui venait du MIT, que j'ai rencontré par hasard à Caracas il y a longtemps. Et il m'avait montré un article, lui-même avait écrit, avec des cartes, et c'était justement pour ces taches qu'on trouvait sur ces photos. Je vois très bien la carte et je vois très bien l'article, mais c'était justement pour dire que c'était bien habité.
Les taches noires, vous voulez dire les terra preta, les taches noires, les terra preta.
Oui.
C'était pas Hilbert.
Je regrette, mais je sais
Peter
que j'ai l'article.
Hilbert, peut-être.
Je l'ai gardé cet article, mais c'est un article très ancien.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a au moins 50 ans, on savait déjà.
C'est ça. Mais personne s'y intéressait. Ça a commencé dans les années 60 à travailler, mais ce n'était pas des archéologues, ça a été d'abord des pédologues. Oui. Et ils ont longtemps planché. Il y a plusieurs livres qui sont sortis sur cette terra preta parce que c'est resté mystérieux. Et pendant longtemps, après, les archéologues s'y sont mis pour confirmer qu'en effet, c'était bien des restes de villes. Ça a fait longtemps de débat, notamment entre 80 et 2000. Mais il y a encore des gens qui travaillent dessus parce qu'elle est magique, cette terre.
Mais par exemple, moi, ce que j'avais remarqué, c'est dans les mythes, on a souvent, j'exagère, mais enfin, on a quelquefois, disons, des noms de plantes, surtout de plantes comestibles, que l'on ne trouve plus du tout. Alors, on a un nom. Certains ont l'idée ou ont eu l'idée d'une description de la plante ou de tubercule, mais qu'on ne trouve plus. Donc, il faudra peut-être chercher encore beaucoup de choses.
Mais je pense que, comme je disais, il faut apprendre à chercher avec les habitants. Oui. Gabriel travaille beaucoup avec les cabocles qui vivent le long des berges de l'Amazone. Ce sont eux qui nous donnent des clés, à vrai dire, pour comprendre oui. des choses qui nous échappent complètement. L'Amazonie est surprenante, vraiment, à plein d'aspects différents. C'est un continent vert qui est à peine exploré, parce qu'on y a cherché à faire du bénéfice en arrivant en tant qu'occidentaux. Et on a toujours vu ça comme une immense réserve de richesse. On a longtemps cru à l'Eldorado, alors qu'il n'y avait aucune base sérieuse pour y croire. Et on l'a surexploité. J'ai vu un film qui a été redécouvert tout récemment, qui est le premier film fait sur l'Amazonie, en 1910, qui a été retrouvé dans une cave, et ça dure une heure. Et on voit, c'est filmé à Santarém, à Manaus, sur le Putumayo. On voit l'extractivisme en pleine action. Avec, à un moment, ils tirent sur un jaguar. Et puis, on voit après les bateaux qui sont chargés de peaux de jaguar. C'est pas 10, c'est pas 100 peaux, c'est des milliers de peaux. Ça a été des massacres. On a massacré les lamantins qui ont disparu de l'Amazone, tellement on les a massacrés pour simplement leur graisse. On a massacré les tortues à partir de la moitié du 19e siècle pour faire des lunettes en écailles. On voit dans ce film, et c'est impressionnant, les chargements des bateaux. Des milliers de tonnes qui partaient. Il y avait un chasseur de papillons qui avait écrit un livre sur la Guyane qui avait fait fortune en exportant. Les listes de ce qu'il exportait, c'était des milliers de tonnes de papillons, de peaux de jaguars qui allaient vêtir. C'est hallucinant ce qu'on a pu tirer de l'Amazonie, pensant que c'était des ressources sans fin. Et on pense encore ça, et c'est une erreur. Cette forêt est fragile. Elle a l'air solide, mais elle est fragile. Les arbres, ils reposent sur un sol très fin. Et c'est pour ça qu'ils ont des racines rampantes pour tenir debout. C'est pour ça qu'ils ont des contreforts. C'est pour éviter de tomber, parce qu'ils montent à 50, 60 mètres. On est face à un monde qu'on a décidé de connaître sans regarder. Et on a décidé que c'était comme ça, et on se trompait.
Vous avez dit aussi qu'il y avait sur un plan strictement démographique, plus de femmes que d'hommes.
Non, je parlais chez les archéologues.
Ah, d'accord.
Chez les archéologues, on a une disparité, on n'a pas la parité.
Oui, d'accord. Oui, parce que justement, chez les Yanomami... du côté vénézuélien, peut-être pas du côté brésilien, mais du côté vénézuélien, il est certain que la démographie montre très facilement les recensements, parfois mal faits, je reconnais, montre qu'il y a une déficience en femmes qui
se d'où les raps qu'on connaît par l'histoire, où on raptait les femmes quand il manquait de femmes dans certains groupes, qui étaient sujets de conflits assez importants entre les groupes. C'est des groupes qui ont installé leur équilibre à travers leur identité, notamment linguistique, mais aussi par la spécialisation, avec des échanges obligatoires, qui vivaient toujours entre conflits et alliances, mais qui ont créé un monde interconnecté, le terme est un peu à la mode, mais qui vivait sur un équilibre entre les groupes. Certains, par exemple, tout le monde sait faire en Amazonie, tous les groupes savent faire de la céramique, élever des chiens, mais certains vont se spécialiser pour pouvoir échanger avec d'autres qui se seront spécialisés sur autre chose. Et l'importance de pouvoir échanger entre les groupes. C'est très net en Amazonie et ça fausse pas mal de registres archéologiques parce que quand, par exemple, le Oxingu, où il y a, je ne sais plus, une vingtaine d'ethnies différentes sur 4 familles linguistiques, si je fais des fouilles dans 100 ans, je vais trouver la même céramique partout. Parce que ce sont un ou deux groupes qui se sont spécialisés en production céramique, qui échangent avec tout le monde. Donc il y a un effacement des identités parce qu'ils maintiennent ce type de l'archéologie peut nous induire sur des fausses pistes, et c'est pour ça que c'est intéressant de la croiser avec d'autres disciplines. Et
des... Au niveau de la culture matérielle, c'est assez clair. Pardon. C'est parce que vous avez des matériaux comme des matériaux par exemple la céramique, on en trouve encore. Mais pardon, des matériaux végétaux. Il y a une circulation des objets, une circulation. Moi, j'ai travaillé sur la vannerie. Ben, avec la vannerie, il est très difficile de parler d'une tradition spécifique, parce que on trouve des objets qui ont des surtout des non seulement des matériaux, mais aussi des méthodes de tissage très différents, mais qui ont été empruntés à d'autres. Mais là, Cor Grünberg le dit très bien.
Je pense que je trouve que ça nous renvoie, ça ouvre tellement de pistes de réflexion et apprendre à écouter, à regarder le monde tel qu'il est et peut-être nous permettrait de découvrir des choses. Est-ce que on arrive bientôt à la fin de cette présentation, et j'ai vraiment envie de vous inviter à vous plonger dans l'archéologie de l'Amazonie, parce que il y a encore beaucoup d'autres choses que Stéphane ne vous a pas dit. Est-ce que ça suscite encore une ou deux questions? Je vois, oui.
Je termine en montrant des images de ce que les autochtones considèrent comme du patrimoine. Pour eux, les sites archéologiques, ça ne veut pas dire grand-chose pour eux. En revanche, il y a des sites où se sont passés des événements historiques qui apparaissent dans la mythologie et qui sont beaucoup plus importants et qui nous échappent complètement, d'où l'intérêt de collaborer sur ce type de recherche archéologique et de patrimonialiser des choses qui sont importantes pour eux. Si je vous disais qu'on va dépatrimonialiser Notre-Dame et patrimonialiser le petit parc qui est à côté, vous allez dire, oh non, ben, c'est ce qu'on leur fait à eux, en disant, cet tas de tessons, c'est important. En revanche, votre cascade... Là,
mais ça crée des conflits.
Et là, c'est pour la prochaine fois. Ça, c'est un paysage transformé. Alors, pas la route, évidemment. Hein. C'est un paysage de guerre. Et c'est très clair pour les autochtones. Pour nous, ça l'est beaucoup moins. Mais c'est vraiment un paysage de guerre. Et je vais pas vous dire pourquoi. Voilà, je tease la prochaine.
Oui, juste une petite question sur mode de travail. Vous dites qu'il faut travailler avec les autochtones. Quelle langue vous utilisez avec eux? Est-ce que vous avez des linguistes parmi vos équipes pluridisciplinaires?
Non, pas moi.
Parce que vous parlez 260 langues, donc non, ça ne me paraît pas.
Non. D'abord, on est archéologue. Donc, on travaille essentiellement en archéologie, pas en ethnologie. On n'a pas un contact d'échange de paroles automatique. Moi, j'ai fait plein de fouilles dans des endroits isolés. Mais quand on parle avec les autochtones, la plupart du temps, on parle la langue du pays, qui peut être l'espagnol, le portugais ou le français, parce qu'il y a des écoles, des classes en tout cas, pas forcément des écoles, mais des classes un peu partout. Donc les enfants actuellement, maintenant, ils parlent les langues, enfin les jeunes. Donc normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Puis si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas, vous ne parlez pas. Moi, j'avais commencé à parler palikour parce que je travaillais beaucoup avec eux. J'ai complètement oublié tous les mots. Et puis, quand j'ai commencé, c'était pas si évident que ça. Enfin, j'ai dû apprendre, j'ai appris. Je suis venu aussi avec mes préjugés et j'ai appris petit à petit que l'écoute était peut-être plus importante que le bavardage. Et donc, ça, c'est le résultat de 40 années là-bas. Mais j'étais pas comme ça quand j'ai commencé. Donc, c'est avec le temps qu'on s'améliore, ou pas d'ailleurs. Mais en l'occurrence, j'ai l'impression que je me suis un peu amélioré vis-à-vis de l'Amazonie. Et donc, c'est en écoutant que, justement, je vais quand même vous dire...
Ah ben voilà, vous n'allez pas nous laisser
c'est la route entre Cayenne et Kourou. On sait qu'il y a eu une guerre entre les Kalina et les Palikour, assez dense, le disent les chroniqueurs, sauf que les chroniqueurs ont menti. Elle s'est pas passée au début de la colonisation, cette guerre. Elle s'est passée bien avant le contact avec selon les autochtones, qui se souviennent très bien de cette guerre, et qui explique que là, c'est un paysage de guerre, c'est le sentier de la guerre, c'est très clair. Parce que on est dans des marécages, hein, il y a des petits bosquets, donc il y a des herbes et quelques arbres, typique d'un marécage, quoi. Et puis pour eux, c'est ça a été planté. Tous ces roseaux que vous voyez sont des roseaux à flèches et ils ne poussent pas en colonie comme ça. Il faut les planter pour que ça pousse. Et ils ont été plantés il y a 500 ans pendant la guerre. Et la preuve que ce n'est pas une élucubration quelconque, c'est qu'entre Cayenne et Kourou, on voit ces colonies de roseaux le long de la route. Donc le long de, c'est un banc de sable hein, au milieu des marécages. C'est pour ça qu'on a construit la route dessus. Et vous voyez tous ces roseaux là. La preuve que c'est vraiment une zone de guerre, c'est que quand on va à l'ouest de Kourou, on a encore 200 km de côte, la même côte, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de roseau. Mais là, il n'y avait pas de guerre. On sait que la guerre, c'était vraiment entre Cayenne et Kourou, les zones d'affrontement. Et donc, ils avaient leur réserve de munitions quand ils partaient à la guerre pour construire des flèches. Mais ça, je veux dire, je défie quiconque de le voir s'il n'est pas été renseigné par... Par les gens qui voient le paysage avec d'autres regards.
Comment voir, écouter le monde, notre histoire, celle de l'humanité autrement. Ben, moi, je vous renvoie sur l'archéologie de l'Amazonie, ouvrage collectif dirigé par Stéphane Rostin. Et ben voilà.
Et voilà Carla,
et Carla
qui a fait ce livre avec moi.
Et puis, je vous renvoie aussi, si jamais, enfin là, on peut encore échanger un peu et acheter le livre, mais on peut aussi, sur France 5 tout à l'heure, ou le voir en
édition, oui,
il y a un documentaire sur les cités perdues.
Oui, que j'ai écrit avec un producteur et qu'on a filmé l'année dernière et l'année d'avant.
Merci infiniment pour votre écoute. Un grand merci à Stéphane Rostin de partager.